I'm turning now to the Gospel of Matthew, chapter 7 and verse 21.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. L'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et nous allons considérer la vraie ou la fausse foi, la différence entre une vraie et une fausse foi. Cette foi en Christ. Et c'est une déclaration extraordinaire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un défi et c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur ». Et ce terme « Seigneur » est répété. Et l'idée de cette répétition, c'est de souligner ceci clairement. Ce sont là des gens qui vraiment pensent qu'ils invoquent le nom de Christ. « Seigneur, Seigneur ». Ceci indique la familiarité avec le Seigneur, d'utiliser son titre, son nom deux fois. Ceci indique cette relation avec lui. Et ils pensent qu'ils sont connus de lui et qu'il les entend. C'est là l'idée, c'est une méthode littéraire de répétition utilisée ici. Ce n'est pas tout homme où ce terme est amplifié au verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tout homme qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Pensez un peu à cela. S'il y a beaucoup de gens parmi ceux qui croient réellement qu'ils ont cette relation avec Christ et qu'ils peuvent l'invoquer, si beaucoup de ces personnes n'iront pas au ciel, alors combien plus de personnes n'iront pas, ceux qui peut-être ne se sont adressés à lui qu'avec un seul Seigneur, ou ils ne disent pas qu'ils connaissent le Seigneur personnellement, qu'ils ne sont pas près de lui, et combien plus de personnes ne l'invoquent pas du tout. Ce terme « Seigneur, Seigneur », c'est là les meilleurs d'entre eux, si vous voulez, ceux qui pensent réellement qu'ils ont cette relation avec Dieu, et cependant l'avertissement du Seigneur, qui est cet homme plein d'amour, qui est l'homme plein de patience, de bonté, c'est que ce n'est pas le cas, ils ne le connaissent pas, il y a beaucoup de gens qui sont trompés, ces gens qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, même s'ils pensent qu'ils en ont une. Ainsi, c'est une déclaration solennelle. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela? Il nous persuade, il plaide avec nous et il nous invite pour que nous soyons bien sûrs de notre âme. Où se tient notre âme? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous sommes venus à lui? Nous devons en être certains. C'est un plaidoyer, si vous voulez, du début à la fin, un appel dans Matthieu 7. Et ce n'est pas une attaque. Ainsi, ces paroles, c'est Christ qui plaide avec nous. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Clairement, ceci parle de la fin de notre vie. Ceci parle de ce grand jour, le jour dernier. Plusieurs me diront en ce jour-là, au verset 22, « Seigneur, Seigneur, en ce jour-là » Dans le Nouveau Testament, cette petite expression « ce jour-là », ceci se réfère toujours au jour dernier, à la fin de toute chose, quand Christ reviendra. C'est une déclaration théologique, c'est le jour du retour de Christ. Mais nous pourrions aussi voir ceci comme étant le jour de notre propre mort, parce que à notre mort, notre relation avec Dieu est scellée. Soit que nous le connaissons, soit que nous ne le connaissions pas, que nous soyons sûr ou en danger, c'est là le dernier jour. Et ceci est scellé à notre mort, notre avenir éternel est scellé à notre mort. Ainsi, nous devons être bons et plaider et avertir, parce que c'est la chose la plus terrible qu'un prédicateur peut faire, c'est de laisser les gens confus et inconscients du fait que leur âme peut être perdue et qu'il n'y a pas d'espoir pour eux. C'est une chose terrible. Et Christ ici dit, pour avertir, ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur », en étant certain, présomptueux, plein de confiance en eux, qu'ils le connaissent, mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, à moins qu'ils fassent la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que cela signifie ? Ceci est expliqué dans le passage. Ceci ne signifie pas faire plein de bonnes œuvres qui peuvent mériter la bénédiction éternelle, parce que nous ne pouvons pas faire ces œuvres. Nous sommes perdus, nous sommes pécheurs, nous sommes faibles et nous sommes sans espoir. Et nous sommes si loin de plaire à Dieu que ceci ne signifie pas que nous devons changer notre style de vie et vivre une vie parfaite qui est acceptable devant Dieu. Non, la volonté de Dieu pour nous, c'est de croire en Christ, dans ce qu'il a fait pour nous donner le salut, pour payer le prix pour notre salut, de nous confier en lui seul et de venir à lui dans la repentance et de lui donner notre vie. Et si nous n'avons pas fait cela, alors nous pouvons dire « Seigneur, 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 Seigneur ». Et ceci n'a aucun effet parce qu'il ne peut pas nous entendre, parce que nous ne nous confions pas en Christ seul et nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu le Père, nous ne nous confions pas en Christ pour le salut. Nous allons expliquer pourquoi ceci est essentiel. Et c'est là ce passage, c'est Christ qui nous appelle à considérer notre état spirituel. C'est une chose tragique si nous ne réfléchissons pas à notre condition spirituelle. J'espère que personne ici n'est trop orgueilleux pour ne pas considérer, réfléchir à son état spirituel. J'espère que personne n'est si insensé pour penser que c'est quelque chose qui ne le concerne pas. D'abord, il est important de dire que d'être d'accord mentalement avec l'existence de Dieu ou avec l'existence de Christ, d'être d'accord mentalement, d'être d'accord en théorie, ceci n'est pas suffisant pour le salut. C'est là ce que ce passage dit. Il y a bien des années, on avait un premier ministre, je ne vais pas donner des noms, et ceci c'était il y a bien des années, nous avions un premier ministre dans ce pays qui, dans ses discours, disait des choses glorieuses par rapport à la nation qui dépendait de Dieu. Et les gens disaient, et je pense que c'était plutôt vrai, parce que les biographies sont d'accord sur ceci, que ce premier ministre lisait la Bible, et c'était un grand homme. Il a accompli de grandes choses et il croyait dans la foi chrétienne et il lisait la Bible. Et certains lui ont demandé s'il avait une espérance personnelle, une foi en Christ ou une relation vivante avec Christ. Il disait non. Non, il ne croyait pas en cela. Il ne voulait pas cela. Il ne trouvait pas ceci nécessaire. Il pensait que ceci serait un obstacle pour lui. Quelle chose bizarre quand vous pensez à ceci, un homme qui a fait beaucoup dans son temps, qui lisait tous les jours la parole de Dieu pour être inspiré personnellement. Il disait que souvent il ne comprenait pas ce qu'il lisait, mais il aimait la parole de Dieu pour la poésie, pour la profondeur de ces choses, mais il n'avait pas d'espérance personnelle, son âme n'était pas sauvée, il ne marchait pas avec Christ, il ne connaissait pas Christ. Quelle tragédie! Oh, je ne vais pas donner les raisons pour lesquelles c'était son cas, mais c'est quelque chose de terrible. On a eu un autre premier ministre il y a à peu près 100 ans qui était un grand moraliste et qui croyait dans les Écritures. Ceci semble bizarre de notre temps parce que nous ne nous attendons plus à avoir un premier ministre qui croit en quoi que ce soit de nos jours. Mais il y a 100 ans, on avait un homme comme premier ministre qui était un grand moraliste et un très bon orateur. Savez-vous, après sa mort, d'une manière tragique, ils ont trouvé toutes sortes de maîtresses dans le pays. Beaucoup de gens savaient ceci, mais le public ne savait pas. Et ceci a été mis à la lumière. Sa vie était si loin de la vie d'un homme qui était chrétien, même s'il était un moraliste dans ce qu'il disait, mais il n'appliquait pas ceci dans sa vie. De manière triste, il était un homme hypocrite en beaucoup de choses. Cependant, il était un homme influent de son temps. Et on avait également un archevêque de Canterbury dans le siècle passé. Il y a 40 ans, 50 ans, j'ai lu un article de cet homme qui était alors retraité, qu'il ne croyait pas dans un Dieu personnel. Comment est-ce que vous pouvez être un archevêque et dire en même temps que vous ne croyez pas dans un Dieu personnel? Oh, ceci est fréquent, savez-vous, que les gens croient en une forme de religion, mais ils n'ont pas la substance même de la religion. Ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne réalisent pas qu'ils sont en danger à cause de cela. Ceci est très triste, mais peut-être que c'est votre cas, peut-être que c'est le cas de quelqu'un qui est présent ici. Vous avez une foi extérieure, mais pas une relation personnelle avec Dieu. Et c'est là ce dont j'aimerais parler. De temps en temps, je mentionne ceci, c'était une grande surprise pour moi, mais à peu près il y a 20 ans, quand nous avions un institut de formation de pasteur à plein temps, il y avait l'un de nos étudiants, ou plusieurs étudiants, mais l'un de nos étudiants était un pasteur coréen. Et il était un pasteur assistant dans une grande église pendant des années. Et comme c'est la coutume là-bas, il a été sélectionné pour venir à l'étranger pour étudier. Et il est venu chez nous, dans notre institut biblique. Et il était un homme très poli, extrêmement poli. Et ses questions étaient toujours très intéressantes. Il semblait être un chrétien modèle, et il croyait les bonnes choses, et il croyait dans la foi, il croyait en Christ, il croyait dans ces choses profondément. Et il était un homme très poli, avec qui il était très intéressant de parler. Un jour, il m'a appelé au téléphone et il m'a dit « Je suis converti maintenant ». Et j'étais surpris. Il était l'un des meilleurs étudiants. C'est surprenant de ma part, mais je me suis dit « Oh, cette personne semble être un homme si idéal, une tellement bonne personne, il doit être dans l'erreur de penser qu'il n'est pas converti ». Mais il m'a parlé de son expérience. Il n'avait pas cette foi personnelle en Christ. Oui, il croyait, il a grandi dans une famille où le père était pasteur, il était toujours très poli, très obéissant. Oh, il reconnaissait qu'il était un pécheur, oui, mais il essayait toujours de plaire à ses parents, au Seigneur, et il a grandi dans l'église, et il est devenu l'un des pasteurs dans l'église presbytérienne de Corée. Et il a réalisé qu'il n'avait pas cette marche personnelle avec le Seigneur. Et il n'a jamais confessé réellement son péché. Il ne s'est jamais confié en Christ seul. Il n'a jamais réellement cherché cette grande transformation dans sa vie, cette conversion. Et alors, en ce jour-là, il s'est converti. Et il a été transformé. Et après cela, il est devenu un homme si zélé pour l'Évangile, pour la foi. Il était encore extérieurement la même personne polie, mais maintenant il avait ce zèle, cette chaleur et ce zèle pour l'Évangile, et vous pouviez voir qu'il était différent, qu'il était transformé, complètement différent. Quand vous êtes converti, c'est complètement différent. Quand vous avez cette communion avec Christ, quand vous le trouvez réellement, non seulement vous savez quelque chose par rapport à lui, mais vous le connaissez lui, non seulement vous êtes d'accord par rapport à son existence, mais vous le connaissez, et c'est là ce que nous voyons dans ce passage. Ainsi, je relis ce passage, « Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Au temps de Christ, il y avait beaucoup, beaucoup de Juifs qui étaient des syncrétistes, c'est-à-dire qu'ils allaient à la synagogue et au temple à Jérusalem pour adorer le Seigneur, mais ils adoraient également des idoles. Ils allaient à des autels d'idoles pour les adorer. Ils adoraient le Seigneur Et également, ils étaient adultères dans leur adoration. Ils n'étaient pas sauvés. C'était ces gens qui disaient « Oh, je suis juif, je vais adorer le Seigneur selon la coutume de mes pères, de ma famille, de mon peuple. Mais pour être sûr que j'ai de la bonne chance et que tout se passe bien pour moi, je vais également aller adorer les idoles à leurs autels. » Ainsi, voyez-vous, ils n'avaient pas cette relation vivante avec Dieu. Et n'ayez pas cette conviction, c'est pour cela que Christ parle ainsi. Ce n'est pas suffisant d'avoir cette foi extérieure, ce n'est pas suffisant de simplement prier. Qu'en est-il de vos prières? Qu'est-ce que vous priez? Pourquoi vous priez? Beaucoup de gens prient. Seigneur, aide-moi, j'ai cette souffrance-là et je ne sais pas ce que c'est, j'ai peur, Seigneur, aide-moi. Mais ils ne se sont jamais repentis de leurs péchés et ils pensent qu'ils prient. Ils pensent que cela fait d'eux des chrétiens. Mais ils n'ont jamais trouvé Christ. Ils n'ont jamais trouvé son amour. Ils ne marchent pas avec lui. Et ceci est très triste. Ainsi, nous devons examiner notre état spirituel. Peut-être votre croyance est très vague et superficielle. J'aimerais vous dire ces choses. Que vous devez croire. Croire en Christ, ceci implique croire dans certaines choses bien définies. D'abord, croire en Christ, croire en Dieu, c'est vous devez croire dans sa sainteté. Et ceci est essentiel. Vous devez croire qu'il est saint et pur et parfait et merveilleux et qu'il n'y a aucune tache, aucun péché en lui. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas échouer en quoi que ce soit. Il est parfait et parfaitement saint. Et alors que vous pensez à ceci, la sainteté de Dieu, il y a une autre chose en laquelle vous devez croire. Vous devez croire dans ce grand chiasme entre Dieu et moi. Lui, il est parfait et saint et moi, je ne le suis pas. Je suis un pécheur né avec un cœur corrompu, avec un esprit corrompu. Le Dieu pur et saint est là et il y a ce fossé entre nous et nous ne pouvons pas traverser ce fossé. Je ne peux pas aller à lui, je ne peux pas l'atteindre. Je suis si loin de lui. Je suis une personne contaminée, polluée, un individu si loin de Dieu. Peut-être vous avez de bons traits de caractère, peut-être vous êtes bon envers vos enfants, peut-être vous êtes bon envers vos voisins, peut-être vous avez de bonnes choses en vous, mes chers amis, vous avez aussi le péché en vous. Et ce péché est là si profondément en nous. Et il y a ce chiasme entre Dieu et nous, cette séparation, et c'est ainsi ce que vous devez croire. Et vous devez aussi croire dans le fait que Dieu, vous ne pouvez pas lui plaire. Il est offensé à cause de notre péché. Nous nous sommes rebellés contre lui, loin de lui. Nous l'avons ignoré, nous l'avons haï. Nous ne lui avons pas obéi, nous ne l'avons pas honoré. La sainteté de Dieu et ce grand chiasme, cette grande séparation, cette corruption de l'homme, et nous sommes dans le besoin, nous sommes condamnés. Nous ne pouvons pas lui plaire. Et pour ajouter à ceci, nous devons croire dans l'impossibilité de notre capacité par nous-mêmes d'arriver à Dieu, de l'atteindre. Nous ne pouvons pas passer par ce fossé. Nous sommes si loin de lui. Nous ne pouvons pas garder ses commandements. Nous avons tant de péchés. Nous ne pouvons pas contrebalancer pour tout ce péché. Et nous n'avons pas la capacité de nous transformer nous-mêmes de manière à ce que nous pouvons l'honorer et l'aimer et vivre entièrement pour lui, entièrement sans péché, sans orgueil, sans ces choses qui nous souillent. Ainsi, nous ne pouvons pas venir à lui. Lui doit nous amener à lui-même. Si nous voulons être réconciliés avec lui, lui doit le faire. Je ne peux pas le faire. Je suis perdu, condamné. Ce sont là les choses que vous devez croire. Et vous devez croire également que dans sa bonté merveilleuse et immense et incomparable. Il est venu à nous. Et c'est là ce que cela signifie que de croire en Christ. Christ est venu de la gloire éternelle sur cette terre, dans ce monde. Il est né un être humain. Il est venu avec une personnalité humaine, Dieu, qui est homme également. Dieu est venu. Dieu, Christ, qui est égal au Père. N'oubliez pas qu'il y a trois personnes dans la Trinité. Un seul Dieu et trois personnes. Ce grand mystère de la Trinité, une essence divine et trois personnes glorieuses dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils égal au Père, égal au Saint-Esprit, est venu. Pourquoi est-ce qu'il est venu dans ce monde? Pour souffrir l'opposition, l'incrédulité des hommes, ceux qu'il a créés, d'être humiliés, d'être méprisés. Non seulement quand il est venu, mais pendant des siècles après, il y a eu ces êtres humains qui, orgueilleux, l'ont méprisé et ont insulté Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, verbalement, le Seigneur de gloire. Mais il est venu, pourquoi est-ce qu'il est venu dans son grand amour? Pour prendre notre place, pour mourir à une croix, à notre place. Et là, c'est comme s'il a invoqué Dieu qui a déversé sur lui toute la culpabilité de tous ceux qui croient en lui à leur place. Et le mystère de la croix du calvaire, c'est que Dieu le Père a déversé sur lui d'une manière impensable toute la condamnation éternelle qui nous est due, et il l'a portée dans l'espace de 6 heures terribles pour expier les péchés, tous les péchés de ceux qui seront sauvés. Quel amour immense, quel amour incomparable, quel acte extraordinaire que Dieu soit venu, qu'il meure pour ses ennemis, pour ceux qui ont péché contre lui. Et c'est là ce que vous devez croire, la sainteté de Dieu, ce grand chiasme entre nous. Nous sommes sous la condamnation de Dieu qui nous rejette. Et c'est impossible pour nous de passer par ce fossé entre nous. Dieu doit venir à nous et nous sauver. Et c'est là ce qu'il a fait. Il a pourvu en Christ l'homme plein d'amour qui est venu pour être notre sauveur. Celui qui nous représente, celui qui porte nos péchés, notre bouc émissaire, si vous voulez. Et vous devez croire qu'en lui, vous pouvez être converti. Votre vie peut être transformée. Vous pouvez recevoir cet esprit qui vit. Vous pouvez être réconcilié avec votre Dieu. Il vous donne une nouvelle nature. Et toutes ces choses vont venir dans votre vie. Et vous vivrez pour lui et vous le remercierez chaque jour jusqu'à la fin de vos jours, et vous le louerez, et vous le servirez, et vous l'aimerez, parce que vous êtes réconcilié avec lui. C'est là ce que vous devez croire. C'est là ce que c'est que de croire en Dieu. Vous ne pouvez pas simplement être sauvé en croyant qu'il existe, et en continuant comme si de rien n'était. C'est là un problème terrible, parce que c'est la vie éternelle qui est en jeu, la vie ou la mort. Et j'ai essayé d'expliquer ceci de manière la plus simple possible. Et vous réalisez votre besoin quand vous pensez à toutes ces choses et vous entendez le commandement de Dieu qui vous dit que vous devez vous repentir et vous confier en Christ et le chercher. C'est là un avertissement solennel, chers amis, au verset 23. Où je lis le verset 22. « Beaucoup me diront en ce jour-là, dit Christ, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Même certaines personnes enseignent la foi chrétienne, mais ils n'ont jamais écouté leur propre prédication. Ils ne l'ont pas prise pour eux-mêmes. « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ?» Oh, ils pensent qu'ils ont fait ces choses. Je ne pense pas que c'est le cas. Mais eux, ils pensent qu'ils ont fait ces choses. Et alors, je leur dirai, au verset 23, ce sont là des paroles solennelles. Alors, je leur dirai ouvertement, ces paroles signifient alors. Ensuite, Je ferai cette déclaration solennelle, c'est là le poids de ces paroles. Alors je vais leur confesser, je ne vous ai jamais connu. Il n'y avait jamais cette amitié entre le Seigneur et eux, jamais cette relation, il n'y avait rien de personnel. Mes chers amis, c'est là ce que vous voulez, cette relation personnelle avec Christ. Vous voulez connaître le Seigneur, vous voulez réellement le trouver et avoir son amour, avoir son pardon. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Chers amis, vous devez croire les bonnes choses. Je connaissais un pasteur il y a bien des années et c'était un homme de bonne compagnie. Il aimait parler, il était un homme intéressant, mais vous ne pouviez jamais parler avec lui de quoi que ce soit de profond. Il ne voulait jamais parler de quoi que ce soit de sérieux. Oh, il discutait de choses, de points théologiques, de débats, mais rien de personnel. Et j'aurais dû voir ces choses arriver, mais pendant son ministère, il a été pris en flagrant délit, il avait une maîtresse et il a abandonné son ministère. Et jusqu'à ce jour, il écrit des articles contre la foi. Il n'a jamais été sauvé, aussi seulement j'avais ses yeux pour voir, ses signes étaient là. Il n'avait pas cette vie intérieure, il ne voulait jamais parler de choses profondes par rapport au Seigneur, son amour pour le Seigneur, c'était que des choses techniques qui l'intéressaient. Et ceci nous parle à nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est présent pour qui c'est la même chose? Et nous n'avons pas cette relation personnelle avec Dieu. Il y a certains signes qui nous montrent cela. Pas de prière en privé, pas d'amour pour les âmes, pas de réalisation de notre responsabilité pour servir le Seigneur, pas d'amour pour Christ, et nous rêvons encore de choses mondaines, terrestres. Pas de conviction ou de péché clair, de connaître Christ. Oh, est-ce que je peux vous dire en quelques minutes ce que c'est que de connaître Christ? Bien sûr, vous repentez de vos péchés, vous lui donnez votre vie, vous lui demandez de vous transformer, de vous sauver, vous vous confiez en lui, dans ce qu'il a fait à la croix du calvaire pour le salut. Et ensuite, il transforme votre vie. Et c'est là ce que c'est que de le connaître. Comme jamais auparavant, vous comprenez la croix du calvaire et sa signification profonde pour vous, c'est l'amour de Christ, c'est l'amour de Christ pour vous personnellement. Il est allé si loin, aussi loin que d'aller jusqu'à la croix. Vous avez un mari, vous avez une femme, vous avez un ami cher, des gens qui sont proches et peut-être que vous vous posez la question: qu'est-ce que mes amis sont prêts à faire pour moi? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? Jusqu'où est-ce qu'ils iraient pour moi? Et si quelque chose se passe et pour tester ce lien, cette amitié, alors vous sauriez. Et d'une certaine manière, vous connaîtriez cette personne mieux que jamais auparavant. Et c'est ainsi que vous démarrez avec Christ, parce que vous savez jusqu'où il est prêt à aller pour vous, parce que vous réalisez qu'il est là, qu'il est mort à la croix du calvaire, qu'il y est allé pour vous, et vous comprenez ces choses. Il a fait ces choses pour moi, pour des millions d'autres personnes, mais il a fait ceci consciemment pour moi. Mes péchés sont là à la croix, et il les a ôtés. Il a souffert le prix, la condamnation à ma place, et il a ôté mes péchés, et je suis pardonné pour toute l'éternité. Je sais jusqu'où il était prêt à aller pour moi. Il est allé à la croix du calvaire pour moi. C'est là l'étendue de son amour pour moi, qui n'ai jamais pensé à lui, qui ne l'ai jamais aimé, qui ne le voulait jamais. Mais il a mis son amour sur moi. Et c'est là l'étendue de son amour. Et vous le savez quand vous venez à lui. C'est là ce que c'est que de connaître Christ. Vous connaissez la mesure de son amour, et quand vous lui donnez votre vie, par la repentance, par la foi en lui, vous le connaissez. Parce que vous savez que le poids du péché est ôté. vous n'entendez pas de voix, mais c'est comme si vous entendiez une voix. Je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis son enfant et qu'il m'a pardonné. Et c'est ainsi que vous le connaissez. Vous ouvrez son cadeau. Il vous a donné ce grand cadeau et vous ouvrez son cadeau. L'un des cadeaux contient ce cadeau de la prière et vous commencez à prier. L'autre cadeau contient la parole de Dieu et vous la lisez avec des yeux nouveaux, des yeux ouverts. Et elle a une signification toute nouvelle pour vous et elle parle à votre cœur et vous l'aimez. Un autre cadeau contient votre nouvelle nature et vous savez que vous êtes différent. Et maintenant, vous haïssez ces péchés qui vous dominaient auparavant. Vous les haïssez. Et ces cadeaux de Christ, quand vous les ouvrez, vous voyez là son œuvre dans votre vie et vous le connaissez. Et vous connaissez ces bonnes choses qu'il a préparées pour ses enfants. Et vous commencez à lui obéir, vous commencez à le louer. Et alors que vous faites ceci, il vous fortifie de manière à ce que vous le connaissiez. Et vous savez que c'est lui. C'est comme si vous ressentiez son toucher, mais vous ne ressentirez jamais un toucher physiquement, mais vous expérimentez son aide et il vous fortifie. Quand vous êtes dans une grande difficulté, il vous aide, il vous fortifie et cette aide est si tangible, si puissante. Vous l'expérimentez par sa fidélité, par la force qu'il vous donne, par sa bonté. Et il y a ces moments où vous le priez après que vous lisiez la parole de Dieu. Vous savez qu'il est là et vous le ressentez même alors que vous lui parlez et que vous l'invoquez et que vous le priez. Et en particulier quand vous priez pour d'autres personnes. Et tout ceci, c'est là ce que c'est que de le connaître. Quand vous déversez vos besoins devant lui, quand vous lui demandez de vous diriger, c'est une chose réelle que de marcher avec Christ, de le connaître, de l'expérimenter et d'avoir sa bonté, sa puissance et sa vie en vous. Et vous connaissez également le ciel, vous savez ce à quoi il ressemble, parce que vous lisez ceci dans la parole de Dieu et vous connaissez ses desseins même pour la fin du monde et vous lisez la parole de Dieu avec plus de compréhension alors que les jours passent. Qu'est-ce que c'est que de le connaître ? Oui, Christ dit « Je ne vous ai jamais connu » à ces gens qui ne se sont jamais repentis, qui ne se sont jamais donnés à lui, qui n'ont jamais recherché cette relation personnelle avec Christ. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ceci pour vous. Cherchez-le, chers amis, confiez-vous en lui, croyez en lui de la manière dans laquelle nous avons parlé ce soir et vous allez le trouver et le connaître et vous serez son enfant. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce à chacun, nous te prions. Et pour tous ceux qui sont simplement à la porte et ceux qui sont encore si loin de toi, dans ton grand amour, dans ta miséricorde, amène-nous près de toi, nous te prions, pour que les âmes soient sauvées et que les amis perdus puissent venir à Christ et le trouver et connaître son amour et sa puissance qui sauve. Seigneur, bénis-nous chacun ce soir, nous te prions, dans le nom de notre Sauveur et pour sa gloire. Amen.